Alors pour cette troisième session, nous quittons l'histoire, si je puis dire, et en tout cas le Pierre Avril témoin de l'histoire, et nous voudrions vous poser des questions qui touchent à votre œuvre d'universitaire. Au fond, pour faire la transition entre les deux, je dirais que votre parcours est assez original. Vous êtes allé de l'action politique à l'université, ce qui n'est pas extrêmement courant. Le plus souvent, des universitaires qui font l'inverse et qui essayent de se faire une place petite ou plus rarement grande en politique. Pour votre part, vous l'avez expliqué plusieurs fois, vous êtes allé de l'implication dans la politique à l'université, ce qui signifiait pour vous, ce qui ne signifiait pas pour vous être un universitaire engagé, ce que vous n'avez pas vraiment été. Vous avez été un universitaire. Et au fond, et vous l'êtes toujours, et au fond, nous sommes intéressés par le lien que vous avez établi et que vous n'avez jamais coupé entre le droit et la politique. Alors, dans vos propos d'introduction, vous parliez de l'intérêt qu'on avait à une certaine époque en France pour la science politique. Vous avez partagé cet intérêt. Vous avez par exemple écrit l'essai sur les partis. Et puis, il y a eu une phase ultérieure où vous avez écrit un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de sciences politiques, qui est les conventions de la Constitution, mais sans être un ouvrage de sciences politiques, c'est un ouvrage qui, à l'évidence, met l'accent sur les rapports de symbiose qui existent entre le droit constitutionnel et l'action politique, c'est-à-dire que le thème général est qu'on ne peut pas interpréter la Constitution sans prendre en compte l'agir politique. Donc au fond, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est que vous nous donniez votre interprétation de cette question d'ensemble. Elle est très vaste, et au fond, évidemment, j'attends pas un cours de plusieurs heures, mais des rapports entre le droit et la politique. Comment ça se présente de votre point de vue?
Mais il y a l'aspect subjectif, il y a l'aspect objectif. Je ne peux parler que à vrai dire, que de l'aspect subjectif, puisque c'était, au fond, c'était la même question que je me posais et que je me suis posée à différents points de vue. Et lorsque que je me posais, que la Ve République me posait. Et que, par conséquent, je cherchais à essayer de comprendre, tout simplement, et quel était l'angle qui m'apportait le sentiment que je maîtrisais à peu près la réalité, qu'elle ne me surprenait plus, ou qu'en tout cas, ce qui allait se produire ou ce qui se produisait ne me déconcertait pas de façon trop grave. Et donc, c'est tout naturellement sous l'aspect politique, au sens politique le plus. La science politique, les forces, pour revenir à notre couple, qui m'intéressait, et qu'au fil des réflexions et des articles ou des travaux, j'arrivais à ce sentiment. D'abord qu'on en faisait assez vite le tour de l'aspect science politique, qu'on en faisait assez vite le tour et que de surcroît cela présentait non seulement un caractère, disons, superficiel, mais un caractère incertain. Alors là, le sentiment m'a été très très net à propos de ce qui paraissait comme un équivalent d'une institution. Je veux parler des systèmes de partis. Quand on lit le grand livre de Duverger sur les partis politiques, car ça a été un grand livre, on a l'impression qu'il a repris certaines catégories qu'il a figées dans des typologies, dans des partis de masse, partis de cadre, systèmes de partis. Ben, tout ça a été très, très fixé. Et que lorsqu'on regardait sur une période un tout petit peu longue, ou du point de vue comparatif, on s'apercevait que les choses étaient infiniment plus fluides que cela n'était présenté, ou qu'en tout cas ce que ces systèmes, je prends le tout parti système pour prendre un exemple, présentaient de permanent, n'avaient pas une base tellement dans la société, mais que c'était plutôt du côté des institutions au sens large, ben de l'esprit des institutions, c'est plutôt de ce côté-là qu'il fallait se tourner pour comprendre. Alors ça a été, là c'est Ostrogorski qui m'a été là, de ce point de vue-là, le lien, car quand il montre l'apparition des partis anglais, la formation des partis anglais avec ce caucus de Manchester, lorsqu'ils ont à manipuler les... Alors, c'est à partir de la loi électorale. Donc, au point de départ, on n'a pas quelque chose dans la société, au point de départ, on a un système électoral avec des élections. Et à partir de là, on voit se former, se créer l'ébauche de ce qui allait être une organisation politique. Et donc, je suis arrivé à cette idée que, finalement, il valait mieux partir des institutions pour comprendre les partis que de partir des partis pour comprendre les institutions. Que, effectivement, les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est le jeu des forces, les partis, le multipartisme ou le bipartisme, etc. Tout ça, ça explique comment que ça fonctionne de cette manière. Mais ce n'est qu'à un moment donné, et ce n'est pas une intelligence de l'ensemble qui est formé par un régime politique. Donc ça a été ce cheminement-là. C'est un peu la même, pour les conventions de la Constitution, c'était un peu la même chose, c'est de dire comment essayer de formuler en termes juridiques, ou quasi-juridiques, on peut discuter sur la qualification, comment peut-on formuler qu'il existe des règles qui sont effectivement des règles, qui ne sont pas écrites, dont on ne sait pas si vraiment c'est du droit ou pas, on en discute, mais l'aborder sous l'angle d'une analyse en termes juridiques. Ça a été l'aboutissement de ce grand détour par les forces politiques.
Alors vous disiez dans votre propos introductif tout à l'heure, et c'était une question que je voulais vous poser, si vous n'aviez pas eu le sentiment d'avoir été mal compris et trahi lorsqu'on a vu citer souvent l'article de pouvoir de 89 sur la revanche du droit constitutionnel, qui légitimait donc d'une certaine manière la thèse des normativistes ou des partisans d'un regard contentieux de manière privilégiée du droit constitutionnel. Je me suis demandé après coup si l'article La Constitution Lazare ou Janus n'était pas en quelque sorte une rectification de tir lorsque vous avez peut-être senti que ça pouvait être mal compris et où vous introduisez là, je dirais d'une manière assez nette, la face duale ou la face duale d'une constitution et où vous avancez cette idée que le droit constitutionnel se construit et se construit par les interprétations et par les règles conventionnelles.
Écoutez, cet article, je ne m'en souviens plus, rien vous cacher. C'était après un article de Dominique Rousseau. Et alors, c'était l'article de Dominique Rousseau qui m'avait donné l'envie de faire celui-là. Dans mon esprit, il n'y avait pas de lien avec le précédent. C'était simplement parce que, je ne sais plus d'ailleurs ce qui m'avait fait tiquer.
Une résurrection, la notion de constitution, écrivait-il.
Oui.
Et je me demande s'il ne citait pas justement votre article de pouvoir.
C'est possible. Mais cette idée de... que la Constitution était morte. Ça m'avait stimulé un peu, ça m'avait amusé. Mais je ne crois pas qu'il y ait... Ça a été une découverte, voyez-vous, cette histoire de la revanche du droit constitutionnel, parce que je me suis aperçu que les gens ne lisaient pas. Non, mais c'est une banalité. Mais à ce point-là, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, y compris... Quelqu'un d'aussi estimable que Saint-Bonnet, il n'y a pas longtemps, qui citait cet article comme un exemple de la, j'allais dire, du courant favoreux, pour faire court, enfin, de l'impérialisme des constitutionnalistes, mais un impérialisme, normativiste, à partir du contentieux. C'était cité comme un exemple. Alors, Bon, je dis que ce n'était pas exactement ça que je voulais dire. J'avais eu d'autres exemples de ce genre, alors du côté de la science politique, déjà qui manifestement, alors que ce n'était pas du tout contre la science politique, c'était pour dire qu'il y avait plusieurs façons de. Et que le droit constitutionnel que l'on considérait comme quasiment inutile, enfin, comme superficiel, comme artificiel, était peut-être un instrument de connaissance. Qui valait bien la science politique. Ça ne voulait pas dire plus que ça.
Non seulement les gens ne lisent pas, mais on pourrait dire, après les psychanalystes, que le fantasme précède la représentation. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit la revanche de la Constitution, il se dit « Ah oui, certainement, c'est du positivisme normativiste, il n'a pas besoin de lire. »
Oui, ça peut être, c'est quand même assez terrifiant, parce qu'on se dit... est-ce qu'on a des lecteurs ? Non, mais je veux dire, on a cette inquiétude de dire, et j'écris, j'essaye de dire à peu près exactement ce que je pense, et alors bon, c'était un peu une provocation ce titre, c'était un peu une provocation, je dois le dire, c'était un peu un pied de nez à la science politique, surtout à la science politique de l'époque, je précise bien, parce que... J'étais toujours cette section-là, et je ne comprenais plus un mot de ce qu'il disait. Et j'étais toujours abonné à la revue française de sciences politiques. Elle me tombait des mains. Donc j'avais envie de faire un pied de nez à la science politique telle qu'elle était. Là, ça a trop bien réussi, puisqu'ils l'ont reçu. Mais c'était pas à la science politique en elle-même, c'était à une certaine science politique de l'époque que je pensais.
Mais à vrai dire, cette incompréhension n'est pas entièrement étonnante, en ce sens que vous n'avez fait ni le droit constitutionnel des constitutionnalistes, ni la science politique des politistes de votre génération. C'est-à-dire, au fond, ce que vous avez fait en science politique n'a quand même que très peu de rapport avec ce qui est devenu dominant dans la science politique à partir des années 70 en France. C'est absolument évident, j'en veux pour preuve. Votre intérêt pour l'histoire des idées politiques qui est très souvent trahi quand on lit par exemple l'essai sur les partis, intérêt qui n'est absolument pas partagé par les politistes contemporains et ça se transforme même chez eux en allergie, c'est-à-dire la simple citation d'un...
J'ai eu une période américaine où j'étais d'un adepte enthousiaste du structuro-fonctionnalisme. J'ai beaucoup aimé Easton.
Ah oui, je voulais vous poser la question.
J'ai beaucoup aimé Easton, parce qu'Easton avait une présentation qui était assez stimulante. Et puis surtout, ce que j'avais trouvé chez Easton, c'était qu'il réintroduisait le dynamisme dans la politique. Cette idée qui me paraît toujours... Comment se fait-il que ça tient, hein? Qu'il y a un régime, qu'il y a une communauté, et que les facteurs centrifuges, les facteurs d'explosion sont tellement forts et nombreux, on se demande comment ça peut tenir. Essayer de penser les mécanismes, alors donc, ça nous ramène aux institutions, essayer de penser les mécanismes d'échange, de stimulation, de réaction qui... permettent d'absorber, de survivre. Et donc Easton m'avait beaucoup... C'était le côté un peu économique d'Easton. Une démarche économique, une idée de déséquilibre et de mouvement.
Vous lisez du Easton, mais vous ne faites pas du Easton. Je veux dire, il n'y a pas de flèche et de carré, et d'input et d'output.
Parce que c'est inutilisable. Non, c'est, je veux dire que c'est stimulant à lire, mais je dois battre ma coulpe, parce que quand j'étais à Poitiers, j'avais essayé, un malheureux étudiant, d'engager dans cette voie-là. Évidemment, on ne pouvait rien en faire. On ne pouvait rien en tirer. D'ailleurs, les quelques cas, il y a eu très quelques tentatives. Là, Georges Lavaux était un enthousiaste aussi du structuro-fonctionnalisme.
Vous avez compris qu'il fallait lire du David Easton et citer du David Hume.
Oui, mais c'est ça pour passer de l'un, revenir à l'autre. Mais le structure. J'ai même écrit un petit bouquin qui s'appelle, dans la collection, je ne sais plus comment, sur l'UDR et gaulliste, qui est l'application purement. D'ailleurs, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Je veux dire, la méthode. La méthode n'est pas idiote parce que c'est une série de questions, c'est une checklist en quelque sorte. Et avec cette checklist, bon, on arrive à recomposer. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. dans les fonctions, par exemple, il y a des fonctions auxquelles on ne pense pas. Là, ça va être avec la checklist, on sait ce qu'on est-ce que, qu'est-ce qu'on met en face. Donc ma fin structuro-fonctionnaliste a été enthousiaste et relativement brève. Parce que, non, mais. Et alors, je dois rendre hommage ici à la Charrière, parce que la Charrière se moquait de moi, et se moquait de ces politistes, donc des années 60, et pas des années 70, les politistes des années 60 qui étaient enthousiastes des Américains. Et lui qui dépassait pas le 18e siècle, ça lui paraissait quelque chose de comique. Et je veux dire que rétrospectivement, je pense que il avait raison, en allant un peu plus loin que le 18e.
Alors, est-ce à dire qu'au fond, dans ces années-là, donc fin des années 60 et début des années 70, vous ne trouvez pas vraiment dans la doctrine constitutionnaliste française de référence très marquante qui vous stimule pour vos analyses, et que vous alliez chercher donc temporairement un peu chez les Américains et les politistes américains, puis que vous... Est-ce une découverte de Jennings? Je crois que vous citez dans la troisième édition de votre thèse, où vous commencez à évoquer le terme de convention. Pouvez-vous nous dire comment, alors sur la doctrine française, et puis peut-être ensuite sur la découverte de Jennings, si c'en était une.
Oh, ça monte, ben c'est presque, c'est concomitant. Depuis le début, j'en avais parlé avec Roger Pinto, parce que Pinto avait fait, c'était un des cours de... C'est un cours à l'Académie de la Haye sur l'effectivité, le droit, le passage du fait au droit, etc. C'est une chose qui est passée, ce qui m'intéressait. Et donc, je lui en avais parlé, on avait parlé des conventions, comme ça. Bon, j'avais lu le bouquin de, comment il s'appelle, de Smith, puis après celle de Marshall et Moody, Some Problem of the Constitution, que j'avais lu comme ça, en passant, parce que ça m'intéressait, et puis tout ça, ça a fini par faire masse, en quelque sorte. Et ça a été, non, c'était en 79 que j'avais dit, ça s'appelle la Convention de la Constitution, les rapports du président de la République et du Premier ministre, c'est la Convention qui règle au fond le problème de fonctionnement de la Ve République. C'est si le président de la République, si plutôt le Premier ministre est responsable devant le président de la République, la cohésion de l'ensemble se trouve assurée. C'était à ce moment-là, c'était que j'avais repris les Some Problems of the Constitution, c'est ça. Et puis, ça restait comme parmi les figures de style, en quelque sorte. Et c'est l'arrêt de la Cour suprême du Canada qui m'a été. Parce que c'était en français. Attendez. C'est pas une plaisanterie. C'est parce que c'était en français. Et donc, c'était la traduction officielle. Dans une société qui était bilingue, d'un texte, donc je ne risquais pas de mal interpréter ou de prendre un mot pour un autre, comme ça arrive très souvent quand on interprète, notamment dans le domaine juridique, et que c'était à partir d'une constitution écrite. C'était ça l'essentiel. Qu'il pouvait y avoir des conventions avec une constitution écrite, et comment une juridiction, là on retrouve le contentieux, Dieu soit loué, on est sauf. On a le contentieux pour soi. Cette protection, cette garantie d'une décision juridictionnelle. Enfin, c'est pas une décision d'un avis, mais enfin, c'est quand même juridictionnel. Donc l'arrêt de la Cour suprême, enfin le premier arrêt de la Cour suprême du Canada, m'a ouvert des perspectives pour cette double raison. Un texte et pas d'équivoque sur la signification des termes. Et que, aux yeux du juge, la Convention voulait dire cela.
Est-ce que ce n'est pas antinomique de l'idée même de convention de type britannique que qu'un juge dise être presque un dernier mot? Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique de l'idée de droit politique, d'un droit qui se fait, ou précisément...
Il reconnaît l'existence. ça n'allait pas... Il reconnaît l'existence et il constate qu'elle existe. Et que jusqu'à présent, on a toujours pris comme ça, sans texte.
Je me rappelle d'une note de lecture d'Olivier Beau dans les cahiers du Conseil constitutionnel, où après avoir rendu hommage à votre livre, il disait finalement, la lecture que donne Pierre Avril des conventions de la Constitution, c'est que dans le sillage du texte, il y a de la pratique, et que cette pratique joue un rôle majeur dans l'interprétation du texte. C'est-à-dire qu'au fond, votre lecture des conventions, c'est tout de même un petit peu que dans l'ombre du texte, il y a l'action politique et qu'elle a un rôle extrêmement significatif sans lequel on ne peut pas comprendre le texte. Ici, moi, je parle et je ne fais plus parler Olivier Vaux. On pourrait dire les choses autrement. On pourrait dire les conventions de la Constitution, c'est l'action politique qui est de manière inhérente porteuse de droit, qui est normative de par le seul fait qu'elle est action politique dans un certain contexte avec un certain contenu. Et cela existe même lorsqu'on n'a pas de Constitution écrite. Même lorsqu'on n'est pas dans un rapport, on n'a pas engagé un rapport d'interprétation avec du droit écrit, et je dirais même, si on pousse cette lecture-là, on est conduit à penser que non seulement l'écrit n'est pas premier, mais même il est assez second par rapport à une pratique constitutionnelle qui n'est pas purement empirique, qui est en elle-même normative.
C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pour ça que j'ai fait appel à la notion de jurisprudence. Parce qu'il y a un texte, de toute façon, on ne peut pas faire qu'il n'y ait pas de texte. Mais l'autorité des décisions qui sont prises repose non pas sur une autorité juridictionnelle, mais sur une autorité politique. Et donc, il y a la rencontre, enfin, c'était à la croisée des deux démarches. C'est une interprétation du texte, mais une application par les autorités habilitées, qui sont des autorités politiques. Et donc c'est l'autorité politique qui apporte à ces règles non écrites le poids, la force que ailleurs on va chercher dans le droit.
Oui. Peut-être pour aller dans le sens de... de ce que vient de dire Denis Barranger, pardon, un peu plus loin éventuellement, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, au fond, ce qui compte, même dans un pays de constitution écrite, c'est pas la constitution en elle-même, c'est l'interprétation qu'on en a, et dans un certain domaine, l'interprétation que les organes politiques en ont, interprétation éventuellement conflictuelle ou éventuellement consensuelle, ce qui, du coup, me semble-t-il, fait que... Enfin, je me demande, en tout cas, si... le travail que vous avez fait sur les conventions de la Constitution ne va pas justement au-delà de votre dualisme des forces et des formes. Parce qu'au fond, forces et formes, bah, c'est le pouvoir d'un côté et puis c'est la règle de l'autre. C'est un petit peu science politique et droit, disons. Or, le lieu même des conventions de la Constitution me semble être quelque chose qui n'est pas structuré selon cette dualité-là, qui est structuré en particulier... des phénomènes tels que le conflit des interprétations, ce qui est ni une force ni une forme, et puis éventuellement le consensus qui va se faire, par exemple, je sais pas, moi, autour de la responsabilité gouvernementale, qui fait que, n'étant plus discuté, la prétention d'une opposition qui voulait faire reconnaître qu'il était obligatoire qu'un gouvernement tombe, finit par devenir véritablement du droit parce que tout le monde y consent. Enfin, entre force et forme, finalement, il me semble qu'il manque un peu le consentement, non ?
Oui, le consentement. Je pense que il y aurait un inventaire à adresser. D'abord, il faudrait trouver ce qui est convention et ce qui n'est pas convention. C'est pas toujours évident. Mais comment dirais-je, de surcroît, le mode de formation. D'ailleurs, on le voit bien pour le cas des conventions britanniques. Mais le mode de formation peut être très divers. Il peut être à l'issue d'un affrontement. Bon, je prends comme exemple, c'est la convocation. Je pense qu'on peut considérer que c'est une convention dans la mesure où la lecture de la session extraordinaire, où la lecture des articles 29 et 30 était unanime, y compris Léon Noël, tout le monde. Et donc, si on renverse cette interprétation pour en imposer une autre, qui n'est pas totalement incompatible d'ailleurs, mais qui n'est pas évidente, il y a quelque chose qui ressemble à une convention. En tout cas, il y a une interprétation, une application qui va à contre-courant et qui est conflictuelle. Elle est conflictuelle, c'est la première motion de censure de la Ve République. cette notion de censure, bon, évidemment, elle n'est pas... Et donc, nous avons au point de départ une décision qui est violemment contestée, qui se maintient, et le consentement, il faudra attendre 1986 pour que François Mitterrand fasse jouer, ça n'était pas, pratiquement pas discuté, si un peu Giscard, pour le moment, en 75, quand les gaullistes ont demandé une session extraordinaire. Mais Giscard n'a pas voulu se battre parce que il voulait, là c'est la politique, il n'a pas voulu faire jouer ce droit qu'il se réservait pour montrer que les gaullistes s'alliaient avec les communistes, les plaçaient dans une position ridicule, ce qui est advenu d'ailleurs. Donc là, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait, c'était une situation équivoque. Donc, mais c'est quand François Mitterrand l'oppose à Chirac et que Chirac s'incline. Ça voulait dire qu'on avait les deux interlocuteurs qui avaient permuté et qui étaient d'accord. Donc on a un conflit et un consentement qui est tardif, ambigu, mais qui finit par... Et après ça, c'est Balladur en 93 qui dit « Tous les juristes sont d'accord, le président de la République, tous les juristes ». C'est assez extraordinaire quand on pense au hurlement de 1960, c'était le mois de février 60, les manifestations paysannes. Qu'à l'époque, Léon Noël était indigné, et qu'il l'écrit, qu'il était à dire au général que ce n'était pas possible. Et en 93, tous les juristes en sont d'accord. Voilà un truc qui donne à penser. Enfin.
Ce que dit Balladur à ce moment-là, c'est en réponse à une intervention de Giscard, disant qu'il y avait eu un glissement dans la pratique constitutionnelle. Donc Giscard, lui, penchait plutôt pour la...
Non, il était de mauvaise foi.
Il était de mauvaise foi, bien sûr, mais officiellement, il penchait plutôt pour l'interprétation parlementariste.
Il avait fait un découpage absurde en disant il y a la décision de réunir et il y a l'ordre du jour.
Ah oui, c'est ça.
Alors bon, c'était pas possible. Non, c'est ça, je dis qu'il était de mauvaise foi. Il voulait mettre son grain de sel, comme ce qu'elle lui arrive quelquefois.
Mais qui dit convention ne dit pas nécessairement consensus au sens d'unanimité ou de quasi-unanimité. Il me semble que qui dit convention dit qu'il y a quelque chose qui est un droit strict et dont l'interprétation va être infléchie pour mettre ce droit strict en conformité avec la source de la souveraineté politique. C'est-à-dire que la Convention de la Constitution est l'instrument met en phase le texte, le droit écrit, ou en tout cas le droit strict, comme on dit en Angleterre, avec quelque chose qui est renouvelé, éventuellement, qui peut changer à travers le temps, et qui est le locus de la souveraineté. Et ça marche assez quand De Gaulle, en 60, interprète à sa manière la question du caractère de compétence liée ou plutôt de pouvoir discrétionnaire de la convocation, parce qu'au fond, il est en train d'imposer une interprétation personnalisée et de principat du régime, et dans cette interprétation-là, il est parfaitement logique qu'il ait un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de ne pas accorder la session extraordinaire. Donc au fond, il y a effectivement convention parce que le souverain parle, le souverain produit une interprétation de la Constitution conforme à la nature et à la localisation de sa souveraineté. Que ça suscite des oppositions ne fait pas obstacle à ce que ça soit une convention de la Constitution. L'opération de remise en phase entre le droit strict et l'autorité politique est faite.
Je ne pense pas, parce que je pense, l'épreuve contraire. L'épreuve contraire, c'est le référendum de 62, c'est-à-dire l'utilisation de l'article 11 pour réviser la Constitution. Quand le général a recommencé en 69, il y avait ce fameux article de Vedel qui faisait appel à la coutume pour justifier en disant il y a un précédent, donc c'était peut-être irrégulier en 62, mais comme ça a été accepté par le peuple français, donc c'est licite désormais. Alors, indépendamment du résultat de 69, indépendamment des déclarations, de fameuses déclarations de François Mitterrand à Olivier Duhamel au pouvoir, en disant après tout, je ne crois pas qu'il y ait une convention, qu'il n'y a pas d'accord. C'est un engagement, un pari, mais il n'y a pas d'accord suffisant pour qu'on puisse admettre que c'est une règle. C'est un coup. Il a le pouvoir de le faire. Il peut le tenter. Il peut le tenter, ou en tout cas, il peut menacer les autres. C'est ce que fait Mitterrand. Il peut menacer les autres, comme il l'avait fait au moment du traité de Maastricht, quand le Sénat traînait les pieds, avec des exigences, en disant « si c'est comme ça, je vais le retirer, je vais faire un référendum. » Bon. Je crois que même le test, c'est que c'est reconnu comme une règle. Et c'est admis... Même avec de mauvais gré, mais c'est quand même reconnu comme une règle que l'on applique. Ou alors, pour le dire autrement, quand on dit qu'est-ce que c'est que la Constitution, pour la Constitution de la Ve République aujourd'hui, il y a cette idée que pour un certain nombre de règles qui ne sont pas dans le texte. D'où Nicolas Sarkozy qui voulait modifier l'article 20. Et
ça, à la limite, c'est amusant parce qu'on peut parfaitement s'en passer de la modification.
Absolument.
Je dirais même, moi, je ne vois pas comment on aura des cohabitations si on change l'article 20. Ça échappe à mon entendement.
C'est ce qu'on lui a dit, c'est pour ça que ça a capoté. Mais c'était absurde parce que ça n'en avait pas besoin, ça ne changeait rien.
Mais pour en revenir aux conventions, il me semble que ce que Denis Barranger disait tout à l'heure, je suis très rarement en désaccord avec lui, mais alors là, en l'occurrence, j'étais un petit peu. Suppose qu'il y ait une localisation de la souveraineté préexistante et qu'ensuite, la façon dont on va pratiquer le droit s'ajuste. Ça, je dirais, c'est un peu... grosso modo, c'est ce qui se passe en Angleterre. Mais c'est pas forcément... Je veux dire, l'utilisation même, la prétention du général de Gaulle, par exemple, à refuser la convocation d'une session extraordinaire... Et donc, l'utilisation même de ce qui va ou ne pas devenir ou ne pas devenir une convention de la Constitution, est également déterminante elle-même pour changer éventuellement le lieu où se trouve le souverain. Et par conséquent, je pense que ça va dans les deux sens, disons.
Oui, ça, j'en dis combien pas. Disons que dans la convention de la Constitution, il y a une série de choses, et notamment les circonstances qui jouent, mais il y a un élément qui me paraît intéressant, c'est l'idée d'une mise en rapport et d'une mise en phase entre l'autorité du droit et l'autorité politique en tant qu'elle est extérieure au droit. Je ne vais pas plus loin.
Mais bref, ça a rapport avec la séparation des pouvoirs, ou en tout cas avec leur division, pour ne pas employer le vilain mot de séparation. Avec leur division, parce que on a des interlocuteurs qui ont chacun, qui participent au pouvoir, qui sont des interlocuteurs qui sont pratiquement, au même niveau.
Et ça a à voir aussi peut-être avec le conflit, la controverse, les débats contradictoires. Et finalement, il me semble que le moment où on peut dire ça a été reconnu comme une règle, c'est le moment en particulier où celui qui est désavantagé par la Convention de la Constitution, lui-même, lorsque le perdant, l'accepte lui-même.
C'est comme ça que le régime norvégien devient parlementaire en 1880, lorsque la droite qui est contre la motion de censure utilise elle-même la motion de censure. À partir de là, effectivement, il y a le consensus dont on parle.
Non, j'en dis ce qu'on vient pas, c'est une variante de convention. Et je voudrais donner un autre exemple de convention venant d'un seul point du jeu constitutionnel. Et c'est le même dans le cas de la cinquième, c'est le discours de Verdun sur le Doubs. Quand Giscard, dans le discours de Verdun sur le Doubs, renverse l'interprétation, gaullienne de la responsabilité devant le pays en disant « s'il y a une victoire de l'opposition aux élections, je resterai », c'est définitif, c'est un embranchement sur lequel on ne peut plus revenir dans l'histoire de la cinquième. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a des cohabitations, on imagine mal aujourd'hui un président qui dirait « je cohabiterai pas ». Enfin, ça me paraît en tout cas, c'est un embranchement important, ça ouvre une possibilité du régime dans laquelle s'est engouffrée une bonne partie de l'histoire de ce régime jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'appellerais ça une convention de la Constitution.
Je crois pas.
Convention unilatérale de la Constitution.
Mais pourquoi pas ? C'est une interprétation.
Les successeurs pouvaient ne pas le suivre,
Ils pouvaient ne pas le suivre. Et ils l'ont suivi, revenons pas sur les étapes, mais pour reprendre, j'entendais Édouard Balladur justifier son rapport à propos justement du problème de l'article 20. Bon, ils avaient proposé, le président détermine, ils avaient proposé de modifier l'article 20, et on lui avait objecté que quid en cas de cohabitation, et il avait dit, bah, je crois que de toute façon, ce ne sera pas possible que le président reste. Et, parce que c'est un mandat de 5 ans, enfin, je veux dire, ça change complètement les données du problème. J'étais très étonné, alors qu'il était le théoricien de la cohabitation, ce soit le même qui explique...
Comme d'une évidence.
Comme d'une évidence, que moi, il faut être réaliste en politique. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un président pour 7 ans qui a des élections qui arrivent au milieu, et qui se... mais un président qui est élu... et qui, 15 jours après, enfin, un mois après, il y a une assemblée contre lui, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il reste.
Au fond, là, on a une question intéressante, on a une problématique intéressante sur laquelle je voudrais vous interroger. C'est qu'on est au carrefour entre la Convention de la Constitution et l'interprétation authentique de la Constitution. Et au fond, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand le président interprète dans une circonstance politique donnée décisive, ça fait convention, alors que j'ai l'impression qu'autour de cette table, cette impression n'est pas généralement partagée. Mais au fond, peu importe. Il y a quelque chose d'intéressant sous la Ve République, c'est cette réactivation de l'idée d'interprétation authentique. Elle est très significative dans le texte de 58 avec l'article 5. Le président est un interprète authentique, il le reste encore aujourd'hui. Et puis il y a évidemment un autre interprète authentique, c'est celui de l'article 61 et suivant de la Constitution, et 62, qui est le Conseil constitutionnel. Je voudrais vous questionner un petit peu là-dessus. Alors, il y a, je ne sais pas s'il y a plusieurs Pierre Avril, mais il y a celui qui écrit avec aussi Jean Gicquel sur le Conseil constitutionnel. Il y a celui qui commente la jurisprudence du Conseil constitutionnel, moins que d'autres certes, mais vous n'en faites pas totalement abstraction. Et puis il y a celui qui, dans les conventions de la Constitution, regrette en passant, le quiétisme qui entoure l'état de droit et cette tendance à confondre droit constitutionnel et exégèse du contentieux constitutionnel. Alors au fond, ramenez-les à un seul pour nous.
le docteur Jekyll et Mr. Hyde.
Voilà.
Oui, alors,
on peut... Janice.
Oui, c'est pas qui. Mais, je pense que l'interprétation présidentielle, elle n'a pas d'autorité juridique. Elle a une autorité politique parce qu'il est président de la République. Cette autorité politique peut être sanctionnée si ça tombe sur l'exercice de ses pouvoirs et que, bon, il décide, je peux soumettre à référendum les révisions de la Constitution. Rien ne l'empêche, il peut le faire. Je peux le faire parce que j'ai les pouvoirs, c'est pas contresigné. Bon, c'est-à-dire que j'ai les moyens d'imposer mon interprétation. Si, en revanche, il se heurte à une opposition, et si cette opposition a les moyens de résister, son interprétation, elle est lettre morte. Ce n'est pas la même nature que l'interprétation que donne le Conseil constitutionnel. Encore que j'irais quand même, et même raisonnement pour le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation peut interpréter autrement l'article 67 et 68, La décision du Conseil constitutionnel n'a pas d'autorité, non pas en tant qu'interprétation, mais interprétation appliquée à tel cas d'espèce, à tel texte. Donc finalement, elle peut être contestée, en tout cas concurrencée pour d'autres textes. Ça a été le cas de l'arrêt Brésachère pour la Cour de cassation. Alors donc finalement, le passage de l'interprétation politique qui n'a d'effectivité, de portée, que si elle est assortie des moyens d'exécution, des voies d'exécution, c'est-à-dire que dans le cas de l'article 1, je fais le référendum, et le passage à l'interprétation juridictionnelle, l'article 61 qui s'impose, l'article 62 à toutes les autorités, etc., mais qui s'impose uniquement dans le cas d'espèce, et que pour le reste, qui peut être, comment dirais-je, concurrencé, mis en cause, débattu, finalement, on retrouve la politique tout le long. Une politique juridictionnelle à un bout, de la politique purement politique, mais dans tous les cas, l'interprétation est quelque chose qui ne s'impose jamais définitivement. Et erga omnes, quoi qu'on en dise, je pense. Donc, finalement, il y a plus de continuité, on déplace le curseur, mais c'est toujours c'est toujours la même chose. Ça peut être d'un côté c'est du droit, si on le retourne à l'envers c'est de la politique. La Cour de cassation c'était de la politique. Le conseiller rapporteur l'avait dit expressément. Nous ne voulons pas être soumis, nous ne voulons pas accepter d'être soumis au Conseil constitutionnel, mais nous devons marquer notre déférence. Donc il faut trouver une solution qui ne contredise pas les résultats, mais qui refuse la démarche. Si c'est pas de la politique, ça.
Et peut-être que la théorie américaine dite du départementalisme permet de réconcilier, ou de concilier en tout cas les points de vue, c'est-à-dire chacun des trois pouvoirs, dans sa propre sphère, peut légitimement interpréter la Constitution. C'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait des conflits d'interprétation.
Ça c'est vieux comme le monde, c'est la citation que Stéphane Rials faisait dans la préface de votre thèse, vous vous souvenez, citation de du romancier victorien personnage de la Chambre des communes qui dit « La couronne peut évidemment faire ce qu'elle veut, mais le Parlement fait aussi ce qu'il veut, donc il faut bien trouver... »
C'était le duc.
Oui, c'est ça.
Le duc d'Omnium.
Qu'est-ce que c'était bien, ce Trollope.
Formidable. Il y a une petite différence. Enfin, le départementalisme n'explique guère le cas français, en ce sens que, là je livre une interprétation personnelle, il y a une question en France qui est sous-jacente et taraudante, c'est qui est-ce qui parle au nom du souverain qui est la nation. Et celui qui parle légitimement, celui qui est interprète authentique, c'est celui qui est capable à un moment donné de croire, de faire croire, d'imposer qu'il est l'expression de la volonté générale. C'est pour ça que la décision évolution de la Nouvelle-Calédonie en 1985, elle dit la vérité du contentieux constitutionnel. La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Donc au fond, ce que fait le juge constitutionnel en France et la manière dont il impose sa légitimité, c'est en devenant l'expression de la volonté générale. Et quand il fait ça, quand on fait ça, la particularité, c'est qu'on ne peut pas être plusieurs, que ça ne peut pas être un jeu à plusieurs opérateurs. Il n'y a nécessairement qu'une seule personne qui parle au nom de la volonté générale. Oui. Je trouve que c'est l'élément non libéral du contentieux constitutionnel français. C'est que ce n'est pas du checks and balances, ce n'est pas Madison, ce n'est pas un contentieux constitutionnel qui sert à équilibrer des rapports entre différentes branches de la Constitution.
Sauf que le
pouvoir constituant.
Oui.
Mais le pouvoir constituant, c'est la volonté générale elle-même qui se substitue à l'interprétation.
Sinon, c'est le Parlement réuni en congrès.
Mais je n'en dis combien pas, ça veut dire que...
De point de vue réaliste, parce que si on ne mobilise pas la volonté générale autrement que lorsqu'elle se manifeste physiquement, de manière incontestable, mais si elle se manifeste par représentation, ce sont les mêmes acteurs, c'est-à-dire c'est le Parlement... qui, prenant le cas de la Nouvelle-Calédonie, justement, le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral figé, le Conseil constitutionnel, à juste titre, trouve ça anormal, de figer le corps électoral à une date déterminée, pour appliquer les accords de Nouméa. Il fallait réviser la Constitution pour surmonter l'interprétation du Conseil constitutionnel. Mais ce sont exactement les mêmes acteurs. Je veux dire, si on prend, non pas en termes d'entité, mais c'est un métonymie que vous aimez bien, mais si on prend en ne jouant pas sur le terme pouvoir constituant, en disant le pouvoir constituant, mais c'est quoi, c'est le peuple ou c'est le Congrès? Bon, si c'est le peuple, ça a un sens. Si derrière le pouvoir constituant on met le Congrès, on se dit que tout compte fait, C'est une différence. Finalement, c'est un peu comme un vote à la majorité qualifiée qui permet de renverser la décision du Conseil constitutionnel.
C'est-à-dire un légi-constituant au sens de Schmitt. En fait.
C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de jouer au jeu seulement, on a le droit d'entrer sur le terrain seulement, si on est capable de porter un masque sur lequel il y a marqué expression de la volonté générale. On est le Congrès, on est l'autorité, le peuple législateur référendaire, on est éventuellement le retour au pouvoir constituant originaire, mais dans tous les cas, ne peut parler que celui qui croit ou qui arrive à faire croire qu'il exprime la volonté générale. Le cas américain, c'est pas ça, parce que dans le cas américain, la volonté générale, elle est insaisissable, tout est fait pour qu'elle ne soit pas là, elle n'est pas sur le terrain, c'est tout ce que je veux dire. Il est effectif que le Conseil constitutionnel ne peut exprimer la volonté générale que dans les contraintes, pour parler comme Michel Tropper, de son intervention. Mais ça me semble être la règle du jeu française.
Pas complètement, et ce qui rapprocherait ce qui me semble être la réalité du droit de la notion de départementalisme, c'est qu'on a quand même, comme on le rappelait tout à l'heure, deux gardiens, et que le premier gardien n'est pas soumis au second. Donc le président, dans son domaine, détermine toute une série de choses que le Conseil ne peut pas contrôler. Il ne signe pas des ordonnances, il décide du recours à l'article 11, pour autant qu'il ait une proposition préalable, il décide du recours à l'article 16, ça fait quand même pas mal de choses. Et donc on ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel s'érige en représentant unique de la volonté générale à partir du moment où il met en œuvre la formule vaudélienne que vous rappeliez tout à l'heure de l'arrêt de 80.
C'est plus vrai dans des pays comme l'Allemagne où la
Cour a une compétence générale, et en particulier celle de régler les conflits entre organes constitués. Là, évidemment, ce serait tout à fait
différent. Oui, mais je passais pour les États-Unis. Comment s'appelle-t-il l'auteur de « We the People »
Ackerman.
Ackerman, oui. Bon, ce n'est pas la volonté générale. N'utilisons pas le terme. Mais disons une volonté majoritaire, une majorité populaire évidente. Bon, le New Deal, on a quelque chose qui ressemble à l'injustice, là aussi. Pas un injustice, sans le décorum, mais pratiquement, le résultat, c'est le même. Ils avalent leur chapeau. Je trouve que les exemples d'Ackerman sont intéressants pour montrer que ça opère dans un contexte où, normalement, ça ne devrait pas pouvoir opérer. Mais que c'est trop fort pour que, dans certains cas...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est très bien décrit par Mme Zoller, cette séquence, hein, où elle explique que le constituant n'avait certainement pas dit que suivent 10 solutions données par les arrêts, la fameuse arrêt sur les usines de volailles, etc. Ouais. Finalement, on a changé de constitution sans changer un iota à la constitution.
À vrai dire, la Cour suprême... La jurisprudence antérieure de la Cour suprême était plus conforme.
Eh bien, c'est ce qu'elle dit. Il y avait la Constitution que faisait respecter la Cour suprême, logique.
C'est comme pour les associations, le droit d'association.
Oui, tout à fait. Oui.
L'arrêt de 71, d'ailleurs, Gauguin avait conclu au rejet de la saisine, parce que, bon, il y avait quoi ? Il y avait l'intervention du juge. Il y avait 4 précédents, il y avait l'Alsace-Lorraine, les associations étrangères, les congrégations, dans la loi des affaires. Bon, il y avait, la jurisprudence du Conseil nous explique qu'il y a un principe fondamental que s'il n'a jamais été... c'est tout. C'est une décision politique, point à la ligne.
On doit malheureusement s'interrompre sur cette note décisionniste.
Merci infiniment. De l'amertume et de larmes.
Merci infiniment.